Nous avons été invités à l'audition judiciaire au Sénat avec toutes les familles qui souffrent à travers le monde. Ce fut un moment historique. À cette audition, il y avait 5 des plus grosses entreprises de technologie. Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, Discord, X l'a bien nommé.
Malheureusement, la majorité des familles ont perdu leurs enfants.
Tous ont dû s'asseoir là et se sont fait humilier à cause de leurs erreurs. Ils ont dû voir et entendre des preuves de leurs mauvaises actions.
Mr. Zuckerberg, you and the companies before us, I know you don't mean it to be so, but you have blood on your hands. You have a product that's killing people.
Je représente des millions d'enfants à travers le monde à qui vous faites du mal. Je m'appelle Alexis Spence. À travers ces lignes, je vais vous raconter mon histoire.
Vous venez d'entendre un extrait du film documentaire Emprise numérique, 5 femmes contre les Big Five de la réalisatrice Elisa Jadot, qui a été proposé dans la sélection des films de plus de 40 minutes en compétition officielle lors de la 32e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société, et qui s'est déroulé du 1er au 5 avril à Douai. Ce film raconte le combat de 5 femmes aux États-Unis et en Europe concernant la responsabilité des plateformes dans notre dépendance collective et du mal-être des plus jeunes, notamment au sein des réseaux sociaux. Avant de retrouver la réalisatrice Elisa Jadot en interview, je vous propose quelques propos recueillis auprès d'élèves du lycée d'Archicourt d'Hénin-Beaumont.
On se sent concerné car on a l'âge d'avoir. On est concerné, on est beaucoup sur les réseaux. Moi personnellement, j'ai jamais été confrontée à ces contenus, mais il faut être prudent. Quoi.
Ah, mais est-ce que tu as des connaissances peut-être qui ont déjà été confrontées, tu as entendu parler autour de toi, des amis et...
Oui, j'ai une amie, elle est tombée sur une vidéo où il y avait un mec qui s'est fait écraser par une voiture.
Moi je connais des gens de ça qui, quand ils retombent sur une vidéo de ça, qui les intéresse, et malheureusement c'est pas forcément du contenu joyeux, tout ça, et en fait ils commencent à lui envoyer beaucoup de vidéos comme ça à la chaîne. Après ça devient vraiment omnibilant et c'est vraiment pesant à force d'avoir beaucoup comme ça d'affilée.
Est-ce que tu penses que justement, à un moment où tu vois une vidéo, ça devient une addiction et tu vas aller cliquer sur d'autres liens qui ont la même chose en fait?
Après ça dépend du sujet et surtout des personnes, par rapport à si ça les intéresse plus ou moins, si ça les concerne, ça... Ça peut devenir une obsession à force, comme une addiction, comme certaines choses.
Est-ce que ce film t'a fait comprendre mieux les choses ou finalement tu dis oui je savais mais c'est quand même c'est un bon film.
Après je savais mais c'était surtout l'algorithme tout ça et surtout que comme quoi qui privilégiait que c'était au niveau des enfants et surtout que comme les adultes peuvent pas retomber dessus, eux ils peuvent pas en prendre conscience en eux-mêmes. Donc au final c'est comme si ils cachaient dans le dos des parents et si les enfants ils en parlent pas au final ils vont juste se renfermer sur eux-mêmes et ça peut mal finir.
Moi j'ai trouvé ça super touchant et émouvant, notamment parce que on a l'habitude d'être sur les réseaux donc on peut voir ça sous un autre point de vue et notamment j'ai par exemple plusieurs témoignages, par exemple j'ai déjà reçu des messages surtout de vieilles personnes âgées adultes, surtout anglaises qui proposent de l'argent en échange de services. Moi, effectivement j'ai supprimé, bloqué, signalé, mais c'est super dangereux surtout quand on n'est pas conscient de la gravité que peut avoir les réseaux sociaux et les gens malveillants qui se trouvent derrière. Donc j'ai trouvé ça super touchant et émouvant, surtout pour les interviews des femmes qui ont parlé dans cette...
Et toi, comment tu fais alors pour réguler toi-même ?
Principalement, alors moi c'est vraiment rare que j'ai des choses aussi choquantes qu'on a pu voir dans le reportage, mais moi je fais vraiment attention, dès que je vois quelque chose qui va pas, je signale, je bloque, et puis j'essaye de passer de moins en moins de temps aussi, je préfère aller lire ou profiter du temps avec mes amis, mais je fais vraiment attention à tous ces réseaux sociaux.
C'est vrai que les réseaux sociaux maintenant, ça, c'est assez dangereux, que ce soit pour n'importe quel âge, parce que même niveau concentration, ça peut également beaucoup retarder. Et puis la conscience également chez les enfants et les adolescents. On ne l'a pas toutes, malheureusement, et puis c'est normal aussi. C'est vrai que les créateurs de ces applications soient assez négligents face à ça et ne se préoccupent pas vraiment de ça. Enfin, ça s'est culotté, quoi. Voilà. Now being sued by 41 different states, accusing the tech giant of building addictive features into its popular social media platforms that contribute to a youth mental health crisis. Stephanie
Silas. Cher Big Five, vous ne me faites plus peur parce que je vous ai survécu. Il m'a fallu du temps et de la force pour me sortir de cette addiction. Aujourd'hui, j'ai le courage de vous affronter. Me verrez-vous ?
Nous avons été invités à l'audition judiciaire au Sénat avec toutes les familles qui souffrent à travers le monde. Ce fut un moment historique.
Je représente des millions d'enfants à travers le monde à qui vous faites du mal. Je m'appelle Alexis Spence. À travers ces lignes, je vais vous raconter mon histoire.
On retrouve à présent Elisa Jadot, réalisatrice de ce film documentaire, pour un décryptage illustré par des extraits du film. Elisa Jadot, bonjour.
Bonjour.
Première chose que j'ai envie de vous demander, il y a eu une petite discussion avec le public à la fin du film. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Alors la discussion à l'issue de la projection du film a été très intéressante, hein, comme toujours. C'est vrai que les adolescents, les scolaires sont toujours très intéressés par ce sujet, parce qu'ils sont nés dedans, ils sont nés dans les réseaux sociaux, ils sont nés avec les écrans. Donc forcément, c'est un sujet qui leur parle et qui les touche. Donc oui, il y a eu quelques questions, puis c'était important pour moi de rappeler que ce film, c'est un film lanceur d'alerte aussi, hein, et qui a pour objectif premier d'être à visée pédagogique et d'apporter cette prise de conscience collective et de pousser les États à être plus interventionnistes. Et malheureusement, on a l'impression, et vu les actualités, que ça va être difficile à ce que les États et les législateurs s'engagent à leur tour dans une réglementation liée à la régulation des contenus sur les réseaux sociaux pour la sécurité des mineurs, hein, déjà parce qu'il n'y a plus de ministère de l'enfance, d'ailleurs une secrétaire d'État à l'enfance, et les récentes déclarations de Mark Zuckerberg aux États-Unis ne vont pas du tout dans le sens de la modération, plutôt le contraire. Donc voilà, le film est là pour lancer l'alerte et donner envie à la société de donner plus de puissance à ces personnes du quotidien qui décident de bouleverser leur vie et s'engager dans une lutte et s'engager pour nos jeunes.
Alors, pas mal dans ce film, on voyait beaucoup d'images évidemment de cette audition des Big Five, hein, donc Snapchat, TikTok, Facebook, Meta, Instagram, et j'en ai peut-être oublié un, non, je pense pas.
Twitter, X.
Oui, X, oui, voilà. On sent qu'il y a quand même une sacrée langue de bois, quoi, parce que même si, voilà, on sent le tribunal, il y a des accusations qui sont quand même assez fortes, et ils osent vraiment rentrer dans le, bah, dans, entre guillemets, dans l'art hein, de ces personnes. On a l'impression qu'en fait, ils sont complètement amorphes.
Bah, en fait, oui, il y a une forme d'hypocrisie hein, dans leurs réponses. Après, ce sont des stratégies de communication qui sont issues des communications des grandes industries. Hein. On a vu la même chose sur l'industrie du tabac, l'industrie des pesticides, de dire bah, « non, nous, on fait les choses correctement, il n'y a pas d'études qui prouvent des liens de causalité entre la santé et l'utilisation de nos produits. Nous avons même des contre-études. Voilà, » ce sont des stratégies déjà utilisé par les autres grandes industries avant eux. Et comme à chaque fois, hein, comme ça a été le cas pour l'industrie du tabac, on se rend compte que finalement, il y a des documents internes qui prouvent le contraire, c'est-à-dire qui prouvent que leurs propres études montrent qu'il y a des liens entre la santé mentale, les ravages liés à la santé mentale des adolescents et l'utilisation des réseaux sociaux.
C'est David contre Goliath. Ce sont tous des diplômés de grandes écoles, avec des millions de dollars. Avec le recul, nous n'avions aucune chance.
Mon rôle a été d'allumer la flamme. Si nous, en tant que père, en tant que mère, nous ne faisons rien, personne ne le fera à notre place. C'est notre lutte. C'est nous qui achetons le smartphone. Tout le pouvoir dont disposent ces grandes multinationales ne nous empêchera pas de lutter. C'est notre devoir.
C'est aujourd'hui que les choses bougent. Aux États-Unis, en Espagne, ça bouge. Nous, on a une bataille à mener, c'est faire reconnaître la responsabilité des entreprises de réseaux sociaux. Parce que finalement, les réseaux sociaux tuent. Bah, faut se le dire, quoi.
Protéger les enfants sur Internet, notre priorité !
On est quand même à un moment assez crucial où Interpol, Europol disent on est débordé par la cyberpédocriminalité. Et les plateformes, elles sont vraiment utilisées par les prédateurs sexuels. Je peux pas fermer les yeux face à ça, c'est pas possible. On va essayer de changer les lois ou les politiques publiques pour que ça se reproduise plus, en fait.
Est-ce que je leur fais peur? Est-ce que ma démarche leur fait peur? L'ensemble de ces démarches collectives, en tout cas, je veux croire que ça leur fait peur.
C'est une course de fond. Ça a été du bouche à oreille. Il y a un groupe qui se crée. Et petit à petit, ça prend de l'ampleur. C'est comme ça que l'on va pouvoir changer les choses.
Je sais déjà que ça va être plus gros. Ça va être plus grand, ça va être plus massif.
Mark Zuckerberg ne me fait pas peur, pas du tout.
Évidemment, il y a pas mal de portraits aussi et de témoignages intéressants, notamment celui d'Alexis, hein, donc 21 ans, qui, elle, traite plutôt de l'anorexie avec sa maman. Comment vous les avez rencontrés, ces personnes? Comment vous avez réussi justement à leur dire, ben voilà, on va faire un film, est-ce que vous êtes d'accord pour tourner et puis expliquer un petit peu?
Ah bah alors ça, c'est mon travail. ça n'a pas été facile, hein, parce que ce sont des personnes qui ont vécu quand même quelque chose qui a été très difficile, très bouleversant pour leur famille. Il faut se remettre dans le contexte. Quand on est parent et que notre enfant fait une, deux, trois, quatre, cinq tentatives de suicide, qu'on n'arrive pas à le sortir de sa dépression et de son mal-être, on se sent coupable et c'est pas forcément quelque chose dont on a envie de parler plus tard et dont c'est quelque chose plutôt, comme elles le disent, dont on a honte. Donc au départ, ça n'a pas été facile d'installer en fait une confiance. Il a fallu faire ça, il a fallu discuter de longues journées avec les parents, ensuite avec Alexis elle-même. Est-ce qu'elle était OK pour m'accueillir chez elle 5 jours en tout, hein. On a tourné pendant 5 jours avec elle. Donc finalement, oui, ça, j'ai réussi à trouver ma place, à intégrer cette famille et à ce qu'elle se livre. Donc oui, ça a été super et c'est un témoignage extrêmement fort dans le film. Donc je l'en remercie. Parce que Alexis, il faut le préciser, ça fait partie des survivantes. Oui. Vous voyez, en fait, dans l'Assemblée au Sénat, il y a beaucoup de parents qui tiennent des photos de leur enfant qui s'est malheureusement suicidé. Alexis est la seule victime vivante parmi l'Assemblée. Donc c'est un témoignage extrêmement poignant, oui.
L'article 230, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que ça signifie? Parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose que moi, je ne connaissais pas.
Alors l'article 230, c'est donc Section 230, c'est aux États-Unis, c'est l'équivalent de l'article sur les hébergeurs de contenu, nous en France, VS éditeurs de contenu. C'est-à-dire que l'industrie technologique est la seule industrie au monde à bénéficier d'une protection contre toutes leurs responsabilités. Voilà, donc ils sont déresponsabilisés, ils ne sont pas attaquables en ce qui concerne ce qui est publié sur leur plateforme, puisqu'il y a une loi donc, qui est extrêmement ancienne, qui date de 1934 et qui a été mise à jour seulement en 1996, c'était avant l'arrivée d'Internet. Donc cette loi les protège. En tant qu'hébergeur de contenu, nous ne sommes pas responsables de ce qui est publié par des utilisateurs sur nos plateformes. Ils ne sont donc pas éditeurs, ils ne sont que hébergeurs, et donc c'est comme ça qu'ils se cachent derrière cette loi. Ils l'utilisent comme bouclier pour dire les problèmes de vos adolescents, c'est le problème de vos ados, c'est votre problème à vous, ce n'est pas le nôtre. C'est une façon pour eux d'ouvrir le parapluie et de ne jamais finalement être confronté à la justice, être obligé en fait d'entrer dans l'enceinte du tribunal. Mais les choses peuvent encore changer.
Votre film traite de la pédocriminalité et vous avez créé un faux profil. Donc Lily, pouvez nous parler un petit peu de cette expérience ?
J'ai voulu comprendre exactement ce que vivaient les adolescents. Et en tant qu'adulte, malheureusement, on ne peut pas comprendre ce qu'ils vivent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, puisque les contenus auxquels ils sont confrontés, nous n'y avons pas accès, nous, en tant qu'adultes, hein, parce que l'algorithme va nous proposer des contenus autour de des choses qui peuvent nous intéresser, hein, très basiquement le foot, peut-être la cuisine, voilà, en tant que nous adultes. Donc au départ, j'ai voulu effectivement créer ce profil de Lily, 13 ans, un profil tout à fait lambda et banal d'une jeune adolescente qui entrerait sur la plateforme. Il faut déjà préciser qu'au moment où j'ai créé ce profil, aucune vérification d'âge ne m'a été demandée. On ne m'a pas demandé ma carte d'identité pour vérifier que j'avais bien 13 ans. Donc j'aurais pu avoir 5 ans, ça aurait été pareil, j'aurais pu rentrer et pénétrer dans ce vaste monde. Donc effectivement, au-delà des contenus autour des contenus très mortifères autour de la scarification, des tentatives de suicide qui m'ont été massivement suggérées, c'est vrai que très rapidement j'ai eu des utilisateurs qui m'ont contactée et étonnamment c'était pas des personnes de mon âge. On était plutôt autour d'hommes, principalement, d'ailleurs uniquement, pas principalement, c'est uniquement des hommes qui m'ont contactée, des hommes plus âgés et qui ont tenté d'engager des discussions avec moi, parfois de manière très brutale, hein, puisque ils m'ont envoyé des photos à caractère sexuel. Ça a été le premier échange. Parfois c'était beaucoup plus manipulateur, donc des personnes qui, avec qui j'ai échangé pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et qui avaient pour projet de me rencontrer et d'avoir des rapports sexuels avec moi dans le dos de mes parents, hein, puisque évidemment ce qu'il fallait, c'est que je parle de cette relation à personne.
Le montage également, il y a beaucoup de travail, je trouve que c'est un travail assez exceptionnel, et puis le son aussi.
Oui, il y a eu un très gros travail au niveau du montage. On a monté pendant, je crois, une dizaine de semaines. Ça a été un casse-tête chinois pour essayer de trouver la bonne formule, parce que c'est un documentaire qui est assez hybride. C'est ni un documentaire de témoignage, ni un documentaire sur un procès, ni une enquête. C'est les trois à la fois. Donc, il a fallu trouver une façon de lier toutes ces timelines, tous ces temps différents entre témoignages, auditions aux États-Unis de ces Big Five, qui est une audition historique, et puis ma propre enquête. Donc ça a été, oui, un gros travail, un Rubik's Cube, mais on s'en est sorti. Et oui, il y a eu je salue le travail évidemment de mon caméraman, du monteur et puis du graphiste, parce qu'il y a l'habillage a été très travaillé aussi. On a travaillé en commun. Voilà, je dis beaucoup le mot travail, mais c'est vrai que on a travaillé de concert dès les premiers jours, avant même le tournage, pour arriver à vous proposer un produit documentaire très cinématographique et qui vous embarque vraiment dans l'histoire. Donc d'où l'intérêt de le voir aussi sur grand écran. C'est vrai que ça prend une autre dimension.
Et enfin, dernière question, vous aviez déjà traité sur les réseaux sociaux dans un précédent film qui parlait plutôt du rapport avec les photos des enfants qui sont sur les réseaux sociaux. Là, les Big Five, et est-ce que vous allez peut-être vous intéresser à l'IA, le chat GPT par exemple ?
Alors, je pense qu'on a déjà beaucoup de retard sur en ce qui concerne la sécurité des enfants en ligne et qu'il faudrait encore s'attarder sur ce sujet. Il y a d'autres projets, oui, d'autres projets autour de cette thématique. Alors, pas forcément de l'IA. Parce que pour l'instant, je reste engagée sur la protection de l'enfance. Maintenant, c'est vrai que l'IA, c'est aussi un autre souci. Vous parliez tout à l'heure de pédocriminalité. Avec l'avènement de l'IA, les contenus pédocriminels fabriqués sont échangés en masse et donc sont accessibles aussi de plus en plus par les enfants. Et il est très difficile de les différencier des contenus réels d'un vrai viol sur mineur que d'un viol sur mineur fabriqué par l'intelligence artificielle. Donc ça crée un vrai souci au niveau des services de police parce qu'ils perdent beaucoup de temps à essayer de démasquer le vrai du faux et donc de repérer ces contenus potentiels.
Reportage réalisé lors de la 32e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société, qui s'est déroulé du 1er au 5 avril à Douai. On était en compagnie de Alice Jadot, réalisatrice du film documentaire Emprise numérique, 5 femmes contre les Big Five, qui était proposé dans la section des films de plus de 40 minutes en compétition officielle. Et ce film documentaire a reçu la mention spéciale du jury et le prix du Regard Jeune des Hauts-de-France.